Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
À 19h, c'est l'heure. Ravie de vous retrouver ce soir pour, avec toute l'équipe de Face à l'info et les mousquetaires qui sont en pleine forme. Marc Menet de retour. Donc du coup, il n'y a plus du tout de silence sur le plateau. Il est tout bronzé.
C'est le potin. Le potin est là.
Donc son temps de parole est écoulé pour le reste de l'émission. Comment va Simon Guélin? Bonsoir.
En pleine forme et très heureux aussi de revoir Marc Menet ce soir.
Ça va. Les infos.
Bonsoir à chère Christine et bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Sécurité renforcée devant les écoles et les lieux de culte juifs. Une demande de Gérald Darmanin après l'attaque menée par l'Iran ce week-end. En prévision de la fête de Pessah, le ministre de l'Intérieur souhaite une présence statique et visible des forces de l'ordre. Nouvelle attaque au couteau à Sydney en Australie. 4 personnes ont été blessées dans une église de la ville pendant une messe. Un suspect de 15 ans a été interpellé par les forces de l'ordre. Au moins 2 policiers ont été hospitalisés lors de violentes protestations qui ont suivi cette attaque. Et puis Donald Trump a évoqué, je cite, une attaque contre l'Amérique en arrivant à son procès qui s'ouvre en pleine campagne présidentielle à New York. Un procès pénal historique pour l'ancien président des États-Unis qui est jugé pour des paiements destinés à acheter le silence de l'ancienne star de films pornographiques Stormy Daniels. C'était juste avant la présidentielle de 2016.
Merci Simon Guillain. Et au sommaire ce soir, alors que l'Iran a montré qu'il était capable d'attaquer Israël, une coalition inattendue a émergé ce week-end. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Jordanie, on pourrait ajouter les Saoudiens et la France. Mais pourquoi la France s'en mêle? Notre pays est-il encore réellement attendu sur la scène internationale ou va-t-il trop loin? L'édito de Mathieu Bock-Côté. La tension Iran-Israël s'est déjà invitée en France. Israël assassin, Gaza, Gaza, la France est avec toi, a été scandé à un meeting de LFI à Montpellier. Un autre meeting sur le thème de la Palestine se tient jeudi à Lille. La gauche de François Mitterrand se serait-elle comportée ainsi jusqu'à tomber dans une détestation aveugle d'Israël? L'analyse de Dimitri Pavlenko. 50 jours pour jour après l'incendie de Notre-Dame, ces flammes qui ont brisé le cœur des Français et du monde entier, quel regard porter aujourd'hui sur ce moment fort? À 8 mois de la réouverture de l'édifice, la flèche a retrouvé sa place, telle une première victoire, au moment où la Croix des Invalides perd la sienne sur des affiches des JO, le décryptage de Charlotte Dornelas. Justement, les JO, à 100 jours du coup d'envoi de ce moment très attendu ou redouté pour certains, arrêtons-nous sur cette année 1900. Paris accueillait les Jeux dans le cadre de l'exposition universelle, la plus grande exposition universelle jamais organisée en France. Dans quel état d'esprit était la France ce 15 avril 1900 par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce que cette exposition et ces Jeux représentaient pour la France? Le regard de Marc Menant. Et puis c'est le coup d'envoi de la campagne des européennes. Si on se base sur le nouveau décompte du temps de parole qui commence aujourd'hui, 8 semaines d'équité pour tous les candidats. Jordan Bardella caracole en tête, Reconquête remonte, Renaissance piétine, le PS grignote. Quels enjeux? Qu'est-ce qui se dessine pour le 9 juin? Quel impact aura cette élection pour la France au-delà du vote? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure avec nos mousquetaires. C'est parti. Alors, comment allez-vous ce soir, ma Charlotte?
Ah bah, très bien.
Si Charlotte va bien, le monde.
Tout va bien.
Comment?
J'ai retrouvé Marc Menant.
Fais attention.
Voilà. Oui, voilà.
Elle va me remettre sur mes gardes.
Mais il y a toujours quelqu'un de gauche à votre gauche. Tout le monde va bien?
Mais bah absolument.
Merveilleux. Dimitri aussi en forme?
Mais je ne dis rien, mais tout va bien aussi.
Bon. Bientôt les audiences d'Europe 1.
Ah oui, oui.
Dans 48 heures.
Ouais, dans 48.
Oh, vous allez cartonner, on en est certain. Regardez cette image, Mathieu Bock-Côté, pour commencer. Cette attaque à Sydney. Sydney qui fait beaucoup parler ce soir. Une nouvelle attaque à l'arme blanche qui a fait 4 blessés lors d'un service religieux dans une église assyrienne dans l'ouest de la ville. C'est lors d'une retransmission en direct où on voit un homme habillé de noir s'approchant de l'autel et poignardant un évêque et un second... deuxième ecclésiastique. La police australienne a annoncé avoir arrêté un garçon de 15 ans, soupçonné d'être à l'origine de cette attaque au couteau. Les 4 hommes blessés ne sont pas en état d'urgence. La foule a lancé des bouteilles, des briques, d'autres objets. Selon la police, au moins 2 policiers ont été hospitalisés. Mathieu Bocoté, qu'est-ce que cela vous évoque? Ça secoue la France ce soir?
En fait, je dirais que c'est la logique du coup de couteau mimétique mondialisé. C'est-à-dire, on est dans cette époque où, premièrement, manifestement, les déséquilibrés, les vrais ou ceux qui passent pour tel, lorsqu'ils veulent passer à l'acte, ils ont trouvé une manière première, surtout s'ils sont filmés, de semer la plus grande terreur, parce que l'effet de terreur est tout si grand. Par ailleurs, on verra pour les motifs, on verra, parce qu'il reste beaucoup de choses à apprendre pour l'instant, mais ce qui est certain, c'est quel que soit en fait le motif donné, le fait de poignarder son prochain dans une espèce d'acte de surprise, c'est devenu le terrorisme du quotidien partout en Occident.
D'autant plus que cela intervient 48 heures après une précédente attaque, selon a priori, avec a priori un schizophrène. Mathieu Bocoté, un tabou est tombé. L'Iran a montré qu'il peut frapper Israël. En attendant une éventuelle riposte, on retient cette coalition inattendue qui est née suite à cette attaque au moment où les soutiens d'Israël étaient de plus en plus discrets. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Jordanie, on peut ajouter les Saoudiens et la France. Quel est le rôle de la France? Pourquoi s'en mêle-t-elle? Que peut-elle faire? Quelles seraient les conséquences éventuelles?
Alors, c'est une espèce d'étrange...
Beaucoup de questions.
C'est une étrange séquence qu'on a eue devant nous. Alors, nous savions, suite à la frappe d'Israël sur le consulat, si je ne me trompe pas, iranien en Syrie, nous savions...
Le 1er avril.
Nous savions qu'il y aurait riposte de l'Iran. C'était annoncé. D'ailleurs, l'Iran ne s'est pas caché sur sa volonté de riposter. Donc, on attendait l'événement. On savait qu'il y aurait quelque chose. Reste à voir de quelle ampleur. Et je crois que pour plusieurs, quand dans la nuit de samedi à dimanche, on a vu l'annonce, au début c'était des milliers de drones qui vont frapper Israël, il y avait quelque chose dans l'air, un parfum apocalyptique. Et je reviens sur ça parce que ça me semble assez important pour comprendre le traitement médiatique d'un événement comme celui-là. Donc c'est une frappe absolument condamnable, absolument criminelle, sans le moindre doute. Mais il y a pendant quelques heures cette idée, mais ça y est. Ça y est, le monde va s'embraser. Finalement, c'est pas par l'Ukraine que la guerre globalisée va arriver. Ça va être par le Proche-Orient. Finalement, on l'attendait depuis longtemps. C'est par là que ça arrive. Et pendant quelques heures, le langage apocalyptique, l'imaginaire apocalyptique est mobilisé pour décrire notre réalité. Et on verra ensuite que c'était peut-être pas nécessairement le langage approprié. Pourquoi, cela dit, il faut voir qu'on est entré depuis quelques années, peut-être même depuis quelques mois, dans une période où on recommence à utiliser un vocabulaire qui n'était plus le nôtre depuis le début des années 90. Guerre nucléaire, Troisième Guerre mondiale. Qui parlait ainsi ces dernières années? Ce vocabulaire n'était plus le nôtre. Ce vocabulaire était celui du passé. Et là, ça redevient même pas le vocabulaire du futur, mais du présent. D'autant qu'on voit les zones de friction qui, d'où pourrait naître un conflit mondialisé. Il y a évidemment l'Ukraine et la Russie. On a eu peur, ça fait 2 ans, qu'on redoute un basculement là-bas qui mettrait en scène l'OTAN et la Russie. Il y a évidemment la Chine autour de Taïwan. On se demande est-ce que la Russie, que dis-je, les Américains et les Chinois pourraient se confronter autour de Taïwan. Et là, ce seraient 2 empires qui s'entrechoqueraient sur des zones d'influence. Ou alors, cette zone se concentrer des tensions planétaires qu'est le Proche-Orient. Donc, on a une grille des lectures qui fait en sorte qu'on guette l'événement qui pourrait d'un coup basculer en conflit mondialisé, en conflit nucléaire. Et on guette tout. Donc, on a cette espèce de signal d'alarme, apocalypse, 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 dès qu'il se passe quelque chose. On regarde finalement les événements et on constate qu'on était, pour l'instant, tout le moins, assez loin de l'apocalypse et on est davantage dans une forme de théâtre diplomatique maîtrisé que devant un moment d'apocalypse. Ce qui ne veut pas dire que le pire ne peut pas arriver. Le pire peut toujours survenir. C'est une loi fondamentale de la condition humaine et de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on voit? On est devant un théâtre maîtrisé. Donc, il y a la frappe d'Israël, je le redis. Il y a la riposte de l'Iran. Et là, on se dit, mais quelle est la nature de cette riposte? Donc, on comprend que c'est une riposte, et là, Dieu sait que je n'ai pas l'habitude, je ne dis pas du bien du régime iranien, qu'on se comprenne bien, je dis qu'ils nous ont surpris par une capacité de mesure relative. Je m'explique. La riposte est suffisamment forte et violente pour satisfaire ceux qui, dans le peuple iranien, ils sont nombreux, hein, exigeaient une riposte. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ils montrent qu'ils sont capables de frapper Israël.
C'est nouveau.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils se permettent de frapper Israël directement. Ils montrent qu'ils sont capables de mobiliser des forces réelles pour le faire. Mais au même moment, l'ampleur des moyens mobilisés par rapport à ce qu'ils auraient pu faire est plus modeste. Donc, ils ont envoyé, en gros, des armes qui pouvaient facilement se faire détruire, d'autant qu'ils tenaient pour acquis que les Américains et leurs alliés, et Israël évidemment, allaient mobiliser le dôme de fer et tout ça pour être capables d'empêcher ces missiles de frapper Israël. Donc, ils annoncent une riposte. La riposte est réelle. Ils montrent qu'ils peuvent frapper Israël. Il frappe Israël, mais de telle manière que cette frappe soit neutralisée avant même d'aboutir. Donc là, on est dans un espèce de théâtre, on cherche à comprendre. Et qu'est-ce qui se passe derrière ça? On est devant un régime qui veut impressionner son propre peuple. On est devant un régime qui dit « Regardez, nous avons frappé l'entité sioniste, le démon sioniste. Regardez, nous sommes capables de les frapper. Regardez, nous sommes capables de les intimider. » Et ce qui est assez intéressant, c'est le contraste des messages envoyés. Je lisais dans le New York Post, je crois que c'était aujourd'hui, que, oui, il y a quelques heures, que sur la télévision d'État en Iran, on diffuse des images d'incendies au Chili qui sont censées représenter la panique en Israël suite à cette attente. Donc on est devant la manipulation médiatique, mais au même moment, l'Iran dit à la communauté internationale « Admirez notre retenue, nous aurions pu frapper beaucoup plus fort. Autrement dit, ne basculons pas dans une logique d'escalade. » Donc, dans cette espèce de théâtre on peut dire théâtre diplomatique et militaire mondialisé, entre la première impression qui était celle de « ça y est, c'est l'apocalypse, on y va, on va tous y passer », et finalement, une volonté des deux, à tout le moins, on a l'impression d'une volonté de maîtriser le tout pour que ça n'explose pas, tout en donnant l'impression qu'on peut frapper très fort, j'ai l'impression que nous sommes dans un moment davantage diplomatique que militaire. On verra si ça tient pour quelques heures, on verra si ça tient pour quelques jours, mais certains considèrent que ça peut rester à ce niveau sans qu'il n'y ait une prochaine étape décisive.
Dans ce cadre, est-ce que la France peut jouer un rôle? Est-ce qu'elle doit jouer un rôle?
Alors, je note que dans ce conflit très particulier, on dirait que tout le monde se sent obligé de jouer un rôle direct. C'est comme si le Proche-Orient, c'est un endroit où on doit non seulement se positionner en fonction de ses propres intérêts, ce qui irait de soi, tous les pays dans le monde ont un intérêt particulier, mais se projeter comme si nous y étions directement, comme si finalement la France, ses intérêts se confondaient avec un des acteurs là-bas, et les Américains, et puis chaque pays a tendance, dans le discours public, tend à se positionner de manière obligatoire, comme si ce conflit, on ne le regardait pas avec un minimum de distance. C'est la première chose que je dis. Pourquoi? Parce qu'ensuite, la France, dans ce conflit, a des intérêts réels et particuliers. On a parlé, je crois que c'était un peu avant l'émission, le ministre Lecornu dit, bon, la France a ses bases et elle a participé à la résistance d'Israël contre les frappes de l'Iran. Donc, la France s'en est mêlée en disant, on s'en mêle au nom de notre propre intérêt et non. Bien que dans les faits, c'est une alliance avec Israël qui joue. D'ailleurs, les remerciements d'Israël à l'endroit de la France, on les a entendus. Donc la France a ses propres intérêts dans tout ça. Dans cette logique, eh bien, elle ne peut pas se contenter d'un positionnement moral. Elle veut dire oui, on intervient parce qu'on défend nos bases, parce qu'on défend notre allié. Et là, je me permets de faire un contraste des situations. En Ukraine, la France a un intérêt finalement peut-être moins grand qu'au Proche-Orient. Pourquoi? Parce que la capacité qu'a la France de s'interposer entre deux empires qui décideraient d'aller aux extrêmes est assez limitée. La France est une puissance nucléaire, elle a une vraie armée, mais si les Américains et les Russes décidaient de s'affronter, la contribution de la France au conflit global serait plutôt mineure. Là, on est dans un conflit d'une autre nature où c'est pas deux empires qui s'affrontent. C'est l'Iran, c'est Israël. Et dans cette situation, la France a par ailleurs une tradition d'intervention régionale. La France a un ancrage historique là, davantage qu'elle n'a d'ancrage historique quelque part autour du Donbass ou quelque part autour de Kiev. Quand on a ça à l'esprit...
Donc, elle est attendue.
Ben, oui, d'autant qu'à un moment donné, l'histoire veut dire quelque chose. Attendu avec des nuances. C'est-à-dire, et ça c'est assez intéressant de voir, et je reviendrai dans un instant, mais c'est le grand écart entre un pays qui a une histoire telle, une tradition telle diplomatique, qu'il croit toujours que son intervention quelque part est absolument essentielle, mais il est quelquefois le seul à croire qu'il est à ce point essentiel. En certains lieux du monde, on s'est un peu déshabitué à croire que la France sera l'acteur qui tranche, l'acteur qui peut faire basculer la situation d'un côté ou de l'autre, mais Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la France a un vrai rôle à jouer. Pour le coup, il est réel et c'est un, alors c'est un terme dont on abuse, mais c'est la notion de puissance d'équilibre. Et qu'est-ce que c'est la notion de puissance d'équilibre en ce moment? C'est de rappeler que c'est pas un devoir moral, en toutes circonstances, de courir au conflit globalisé. Ce n'est pas un devoir moral que de courir à la guerre mondiale qui serait le seul signe véritable de notre engagement pour la démocratie. Et je note qu'à la différence des néoconservateurs américains, qui pèsent plus qu'on ne le dit dans le débat public et qui existent aussi en Europe, l'obsession par rapport à l'Iran des néoconservateurs américains, c'est le changement de régime. C'est le changement de régime, c'est-à-dire si on fait tomber le régime des mollahs, eh bien l'Iran sera le laboratoire d'une démocratie nouvelle au Proche-Orient. La réalité, la France, je pense, a une conception plus sage des rapports diplomatiques. Donc la France peut dire oui, la riposte est nécessaire. Elle peut frapper le Hezbollah, elle peut frapper les capacités nucléaires de l'Iran, dans quel on verra comment cela dit, mais ça ne doit pas aller jusqu'au changement de régime. Donc, dans une région où elle a une influence réelle, très réelle, la France peut se présenter comme une force de modération par rapport à ceux, aux États-Unis ou en Israël, qui diraient l'occasion est enfin donnée de contre-attaquer et d'en finir avec un régime que nous jugeons absolument qui est absolument mauvais, soit dit en passant. Mais l'idée d'aller faire tomber un régime, on sait ce que ça peut donner la théorie du changement de régime, ça peut donner non seulement après le pire, il y en a encore pire.
Mm-hmm. Certains soutiennent Mathieu Bock-Côté, comme on pouvait le lire dans le Figaro aujourd'hui, que la France ne retrouvera sa puissance dans le monde qu'à travers la souveraineté européenne. N'est-ce pas une vérité, même si elle est un peu désagréable à entendre?
C'est désagréable à entendre, mais ce n'est pas une vérité pour autant. j'ai lu ça, effectivement. C'est une proposition de Richard Verly et de François d'Alençon qui publie un livre dont le thème est intéressant, c'est qu'est-ce que la France attend, qu'est-ce que le monde attend de la France? Donc, qu'est-ce qu'on attend de la France? Et c'est intéressant. Donc, quel rôle peut-elle jouer?
J'ai bien aimé cet article. J'allais nous dire pourquoi. Ouais,
Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, quand on regarde la réponse des auteurs, c'est que la France, pour exister à nouveau, c'est d'une originalité absolument redoutable, doit se européaniser. Oh là là, c'est étonnant. Donc, autrement dit, quel que soit le problème, la réponse, c'est l'Europe. Mais ils vont plus loin, ils sont assez précis sur une proposition. De quelle manière marquer une européanisation authentique de la souveraineté française par le partage du nucléaire? Là, c'est dit comme tel. Le partage du nucléaire est vu comme un pas en avant pour construire l'Europe. Donc le nucléaire n'est plus ce qui permettrait à la France de défendre son intérêt vital si elle était attaquée. Le nucléaire, c'est un instrument qu'on doit utiliser, sur lequel s'appuyer pour construire une souveraineté européenne. Là, il y a quand même, et c'est une proposition pas nouvelle, mais inquiétante. Je note que l'extrême-centre, on entend de plus en plus à l'extrême-centre cette proposition. Elle n'est pas nouvelle, elle vient de. Il y a de plus en plus de voix qui la portent, donc on comprend que ce n'est pas une idée lancée comme ça dans le vide. Il y a, dans la mouvance de l'extrême centre, aujourd'hui, celle pour qui la souveraineté européenne est la seule souveraineté véritable. Il y a cette idée que le partage de l'arme nucléaire serait ce par quoi on pourrait construire une défense européenne. Il y a quelque chose d'original là-dedans, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je note qu'il y a quelque chose d'un peu dangereux là-dedans, parce que quoi qu'on en dise, entre les pays d'Europe de l'Est, entre les pays de l'Europe méridionale, entre l'Allemagne, entre les pays scandinaves, entre la France, je vois très bien une communauté de civilisation démocratique. Je ne suis pas certain de voir une communauté d'intérêts stratégiques véritables. Je comprends les Polonais de considérer que l'essentiel se trouve aujourd'hui en Ukraine. Je comprends la France de considérer que ses intérêts sont aussi au Proche-Orient, ce qui n'est peut-être pas l'avis des Lituaniens. Bon, quand on voit tout ça, est-ce que le partage de l'arme nucléaire est véritablement ce qui permettra à la France? Donc, renoncer à ce que vous avez de plus fort, de plus puissant, pour être capable de créer quelque chose de neuf qui vous donnerait une puissance nouvelle et fantasmée, je ne suis pas certain que ce soit la réponse la plus indiquée. Un dernier mot, que veut dire pour la France dans les circonstances être un bon allié pour Israël, parce que c'est une question fondamentale, c'est à ce moment qu'être un bon allié aussi, c'est quelquefois être une puissance de mesure et de mettre en garde ses meilleurs amis contre l'idée qu'un bouleversement, le changement de régime, on l'a essayé en Irak. On a vu ce que ça a donné.
Justement, j'y pensais.
Le changement de régime en Iran, Dieu sait que le régime des mollahs, je le conspue, mais jouer au changement de régime là-bas, comme on peut l'entendre, il y a question de l'arme nucléaire, c'en est une autre, je ne suis pas certain que ce soit l'idée du siècle.
Donc pour revenir, je vous relance, hein, pour revenir donc, sur l'arme nucléaire, qui dans l'Union européenne, qui dans l'Union européenne a l'arme nucléaire?
De ce que j'en sais, c'est la France qui a l'arme nucléaire. Il y avait les Britanniques, mais ils n'y sont plus.
Vous êtes en train de nous expliquer, et je vous fais rebondir, que parce que la France a l'arme nucléaire et le seul pays à avoir l'arme nucléaire dans l'Union européenne, elle devrait donc partager cette puissance avec, pour prendre le leader de l'Union européenne.
Pour prendre le lead. Oui, c'est là que la blague commence, pour prendre le lead. En fait, c'est sacrifier son intérêt stratégique principal pour être capable de créer une instance nouvelle qui se détachera des intérêts nationaux de la France. Et finalement, l'arme nucléaire, on l'offre. L'arme nucléaire, on la partage. L'arme nucléaire, on la sacrifie au nom de ce bien plus grand qu'est l'Europe. Et à ce moment précis, on se croit plus puissant que jamais. Il y a, chez nos amis qui partagent cette idée, peut-être quelques défauts de logique.
C'est vrai qu'ils vont peut-être se rappeler, au moment de guerre, qu'on a une particularité, Dimitri Pavlenko. Vous avez lu cet article-ci?
Oui, oui. Non, mais moi, je trouve que c'est une... Je trouve que c'est une réflexion intéressante parce que je pense que les Français voient la France peut-être moins influente, moins importante qu'elle n'est au regard des autres. Il y a un journaliste du New York Times qui justement est en train de dire dans un livre que lui, il met un billet sur la France pour le 21e siècle parce qu'il croit vraiment que la France a ce rôle à jouer. Mais moi, je pense que la réaction de ce week-end, elle est symptomatique du fait qu'on a totalement intégré l'idée qu'on est une puissance moyenne, qu'on a des amis. Et ce qui est intéressant dans le mouvement iranien, je ne sais pas si ça, il l'avait anticipé, c'est qu'il y a eu cet effet drapeau autour d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël, qu'on disait très isolé, d'un coup, c'est quand même retrouvé assez bien entouré, je trouve, quand même, dans la séquence de ce week-end. Hein.
Bonjour, frère.
Il y a une autre puissance nucléaire en Europe, je précise, par exemple, c'est les Allemands. Ils ont l'arme nucléaire, mais c'est l'arme nucléaire américaine.
Non, mais d'accord.
Mais si on la généralise, si on européanise notre bombe, on se retrouverait dans la même situation.
Hein, bien sûr.
À savoir d'une bombe qui dépendrait des Allemands et qui dépendrait des Américains, in fine.
On a beaucoup de sujets. On va continuer. Je vais vous faire réagir sur d'autres sujets. Dimitri, parmi les réactions très nombreuses par rapport à l'attaque iranienne sur Israël, la France insoumise se signale une fois de plus par son hostilité à peine voilée à Israël au nom de la défense de la cause palestinienne. Alors, on va prendre un peu de recul avec vous ce soir, Dimitri, sur la trajectoire de la gauche vis-à-vis de la Palestine. Pour le dire simplement, est-ce que François Mitterrand aurait dit, comme la députée insoumise Ercilia Soudet, que Benjamin Netanyahu, ce week-end a obtenu ce qu'il cherchait?
Oui, écoutez, non, sans doute pas, Christine. Je pense pas que François Mitterrand aurait dit les choses de la sorte. Mais je vais vous dire, en fait, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'Ercilia Soudet, finalement, s'est encore retenue comme propos, ce qu'elle écrit là. Hein. Et je vais dire pareil de ce qu'a dit Rima Hassan, donc vous savez, qui est la figure pro-palestinienne de la liste LFI pour les européennes, exactement. Alors elle a trouvé juste après la destruction des projectiles iraniens d'exiger un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Donc sous-entendu, s'ils pouvaient ne pas se défendre la prochaine fois, ce serait quand même pas mal. Ouais. Et Ercilia Soudet, ce qu'elle nous dit quand même dans sa phrase, Benjamin Netanyahu a obtenu ce qu'il cherchait, ça veut dire c'est bien fait pour eux quand même. Hein. Mm-hmm. Mais on trouve beaucoup plus violent et sans doute beaucoup plus sincère des réelles intentions des militants de la cause pro-palestinienne d'aujourd'hui. Alors, par exemple, il y a cette affiche d'un meeting qui doit se tenir jeudi à Lille, donc en présence de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, l'affiche, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il y a? Rien de particulier, il y a un petit QR code, etc. Et puis, vous avez ce petit médaillon vert, là, en bas à droite, il y a écrit, regardez, Libre Palestine. Et qu'est-ce que vous voyez? Bah, c'est la Grande Palestine, c'est la Palestine de la mer au Jourdain. Et là, vous voyez bien qu'Israël n'existe plus, là, en fait. Hein, voilà. Donc, je ne pense pas que François Mitterrand aurait cautionné une telle affiche, mais apparemment, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, ou alors il n'a aucun contrôle sur les graphistes de l'affiche en question.
Alors, vous voulez dire que la gauche aujourd'hui, quand elle défend la cause palestinienne, souhaite en filigrane l'anéantissement d'Israël?
Ben voilà, je pense que c'est une bonne question. Je ne vous répondrai pas toutes les gauches. Mais en ce qui concerne les insoumis, franchement, c'est ce que suggère l'affiche que je viens de vous montrer. Et en fait, là où c'est pervers, là où c'est un petit peu insidieux, c'est qu'il y a un double langage. D'un côté, vous avez Rima Hassan qui, lorsqu'elle va au micro de France Inter, vous explique qu'elle plaide pour la solution à deux États, etc. Et puis, il y a tout ce que vous allez entendre et lire dans les cercles militants de terrain. Et alors là, je vais vous renvoyer à la lecture de numéro de Livre Noir là, qui vient de sortir, avec un reportage mais ahurissant, avec tous les militants du collectif Urgence Palestine. Donc c'est ce collectif qui est né au lendemain du 7 octobre pour fédérer tous les défenseurs de la cause palestinienne. Et donc c'est un agrégat de mouvements, de syndicats, d'associations, de militants individuels. Et dans les boucles WhatsApp, c'est ce que rapporte la journaliste de Livre Noir qui s'est donc infiltrée dans ce mouvement, vous lisez, hein, on parle du 7 octobre comme de la glorieuse opération déluge d'Al-Aqsa, donc c'est vraiment les termes du Hamas, hein, là pour le coup. On vous explique que les crimes contre les colons sont non prouvés, vous avez quand même beaucoup de militants qui vous disent ça, notamment les viols. hein, les soi-disant viols, voyez. Vous avez une militante qui écrit aussi que le mot d'ordre devrait être d'appeler au bombardement d'Israël. Et tant pis s'il y a 1,5 million de Palestiniens qui vivent en Israël, hein, voyez. Donc c'est peut-être ça, finalement, le fond du sujet, le fond du militantisme pro-palestinien qui se cache derrière le label, vous savez, la résistance antisioniste.
Dans un instant, on va voir avec vous d'où vient cette détestation de l'extrême gauche pour Israël. On va parler des JO en 1900 pour voir un peu si on est un peu, c'est un peu la même ambiance.
Il y a un effet miroir.
Un effet miroir en 2024. On parlera avec Charlotte Dornelas de Notre-Dame. 5 ans, jour pour jour après, quel état d'esprit? On parlera des européennes. Et puis peut-être un petit mot sur Donald Trump également. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. On était avec Dimitri. On parlait de cette importation, de cette tension entre Israël et l'Iran. Et on se demandait d'où vient cette détestation de l'extrême gauche pour Israël. Et on se disait tout à l'heure que François Mitterrand n'aurait pas eu ce regard.
Mais oui, parce que ça n'est pas l'extrême gauche. Et c'est vraiment important de le signaler. La gauche social-démocrate n'a pas le même rapport à Israël que l'extrême gauche. Et même, je dirais, le Parti communiste pendant longtemps aussi. Parce qu'il faut rappeler que l'Union soviétique, en 1947, vote pour la création d'Israël. Et ça, ça va créer un bug, hein, veut dire, dans le logiciel communiste pendant longtemps. Mmh. Alors, la détestation, malgré tout, d'une partie de l'extrême-gauche pour Israël, d'où ça vient? Je m'appuie sur un papier qui date de 2009 de Denis Seifert, qui est le directeur de la rédaction de Politis, l'hebdo Politis, donc qui est très à gauche, mais qui a beaucoup travaillé sur cette question du rapport de la gauche à la Palestine, et il écrit des choses intéressantes. Il écrit notamment que avant 1967, donc c'est-à-dire avant la guerre des six jours, hein, qui va opposer Israël à ses voisins, les Palestiniens, en réalité, n'intéressent pas du tout la gauche. Elle les voit un petit peu comme les Indiens d'Amérique. Vous savez, c'est des réfugiés, sont des réfugiés. Voilà, on les a parqués dans des camps. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Et si, il y a un reproche que la gauche fait, c'est aux États arabes voisins d'Israël de ne pas les accueillir. Et l'autre reproche que fait la gauche à ce moment-là, c'est aux États occidentaux de ne pas les aider, ces réfugiés. Voilà. En revanche, il y a une grande gêne à l'époque de la gauche à s'en prendre à Israël. Pourquoi? Parce que, bah, d'abord, il y a la Shoah. Dans toute la classe politique française, ce qu'on n'appelle pas encore la Shoah d'abord à l'époque, hein, le génocide des Juifs, toute la classe politique française s'en sent coupable. Et puis, l'autre chose, c'est qu'Israël à l'époque est perçu comme un pays de gauche. L'expérience des kibboutz, si vous voulez, s'est vécue comme l'alternative autogérée, d'autogestion, au socialisme, enfin, voilà, une alternative socialiste d'autogestion au communisme stalinien. Voyez. Donc il y a ce regard, il y a ce regard assez favorable que la gauche porte à Israël. Et puis ça change à partir de 1964. Donc vous voyez, c'est il y a 60 ans, avec la création de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, l'aventure Yasser Arafat, qui va changer le discours que l'on tient sur les Palestiniens. Exit le réfugié, le Palestinien, c'est d'abord la victime de la création d'Israël. Et c'est pas une victime qui se laisse faire, c'est un combattant. Vous voyez, c'est le fédaïn, c'est la figure du fédaïn qui va tant passionner l'extrême gauche. Ouais. Et 67, il faut vous replacer aussi dans l'époque, on est 5 ans seulement après l'indépendance de l'Algérie. Donc dans le logiciel d'extrême gauche et le logiciel d'ailleurs palestinien, il y a cette idée d'un futur possible pour les Palestiniens. Il y a aussi la guerre du Vietnam. Et il se trouve que cette guerre du Vietnam que les Américains mènent, Israël soutient les États-Unis. Et il va s'opérer un effet d'amalgame dans l'imaginaire gauchiste, sur fond de décolonisation, où, en fait, voilà, c'est déjà le Sud face à l'axe américano-sioniste. Vous voyez, ce logiciel qu'on a encore aujourd'hui. Et dans l'opération, Israël perd l'immunité morale que lui conférait le statut de pays des rescapés. Vous voyez, dans cette histoire-là. Alors, Denis Seifert ajoute, il y a d'autres facteurs d'identification de l'extrême gauche à la cause palestinienne. Il y a le sentiment d'abord de la marginalité. Le fait d'être des parias, ce que les Palestiniens sont d'ailleurs dans le monde arabe, rappelez-vous, avant le 7 octobre, plus personne ne s'intéressait à eux. À la fin des années 60, quand on est trotskiste, quand on est maoïste, on s'identifie à cela. Et puis on commence à voir, à la fin des années 60 aussi, en France, quelqu'un qui ressemble beaucoup aux Palestiniens. Ben c'est qui? C'est la figure de l'immigré. C'est l'immigré maghrébin ou d'Afrique noire. On ne dit pas encore subsaharien à l'époque. Mais voyez, c'est la figure de l'exploité, celui qu'on a arraché à son foyer. Alors je ne dis pas que c'était le cas de tous les immigrés, mais enfin voilà, c'était cette construction imaginaire avec encore une fois cet effet d'amalgame que fait l'extrême gauche autour de cette figure du Palestinien.
Alors Dimitri, on peut être pro palestiniens, sans pour autant appeler à la destruction d'Israël.
Absolument. Et
c'est pourtant ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ce qu'on ne comprend pas.
Mais oui, mais bah, en fait, c'est très simple, c'est que là, c'est la conséquence de l'alliance de l'extrême gauche avec les islamistes en vertu de ce vieux slogan de 1968, Marc, vous vous en rappelez, tout ce qui bouge est rouge. Tout ce qui bouge est rouge, vous voyez. Et c'est ce vieux raisonnement marxiste, et d'ailleurs, dans les pages de Livre Noir, vous avez des militants qui le tiennent exactement. C'est le même que tenaient ce qu'on appelait les pieds rouges pendant la guerre d'Algérie. C'est le raisonnement qui consiste à dire, bon, si au sein du Hamas, vous avez des religieux, vous avez des réactionnaires, vous avez des nationalistes, c'est pas grave, il faut les soutenir. Parce que si ça se trouve, à un moment ou l'autre, nous, les vrais, les marxistes, les révolutionnaires, nous aurons les capacités de prendre en main le mouvement, d'en prendre la direction. Et ça, vous voyez, c'est le péché d'orgueil des militants d'extrême gauche qui sont persuadés que tôt ou tard, l'islamiste va renoncer à leur religion pour le grand soir, pour la révolution, pour l'émancipation. Et à chaque fois, ça se passe de la même manière, c'est que l'islamiste écrase le gauchiste. Ça se passe toujours comme ça. On a l'exemple de la révolution iranienne, on a l'exemple aussi, je l'ai dit, de la guerre d'Algérie, où ces fameux pieds rouges, ils vont finir, qui vont soutenir le FLN, vont finir par être bannis d'Algérie par ce même FLN. Et ça, je pense que les députés et les filles feraient bien de s'en souvenir. Parce que, vous savez, dans le reportage de Livre Noir, encore une fois, je vous encourage à le lire, on voit défiler dans les AG, dans les réunions, Ercilia Soudet, Daniel Simonet, vous voyez, des députés de la France Insoumise qui, à chaque fois qu'il y a des discours extrêmes, qu'on vous parle de complotionnistes et tout, eux prennent leur distance par rapport à ces mots-là. Ils ont un sens de la respectabilité médiatique. Mais quand vous travaillez avec ces gens-là, quelque part, vous allez les institutionnaliser au fil du temps. C'est ce qu'on a vu en Iran, c'est ce qu'on a vu en Algérie, je viens de vous le dire. Et voyez, on en a eu un exemple flagrant quand, à la fin du mois de novembre, les cadres de la France Insoumise s'étaient enlisés à tenter de justifier leur invitation à l'Assemblée nationale de Mariam Abou Daka, figure du FPLP, le Front de Libération de la Palestine, qui est un groupe terroriste qui refuse tout processus de paix avec Israël. Il faut se méfier de ses amis dans ces cas-là.
Merci pour votre regard, mon cher Dimitri. Alors, on va parler des JO, on va parler de Trump juste après vous, peut-être, avant Charlotte, parce que j'aimerais bien faire un petit tour de table sur Donald Trump. C'est quand même une première, hein, ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, nous sommes à 100 jours, à peu près, hein, des JO, et du coup, d'envoi de ce moment très attendu ou redouté. Attendu ou redouté pour vous,
les JO ? Redouté.
Redouté.
Oui. Ah oui.
Attendu ou pour vous, ou redouté, les JO ?
Je crois que les Français partagent.
Moi, vous, oui.
Ah, mais moi, je m'en vais. Moi, je quitte Paris.
Ok, d'accord. Redoutez. Et vous, ma belle.
Je suis comme je reste. Je redoute.
Et pour vous, Marc.
Non, moi, je redoute. Je ne serai pas là.
Non. Ça peut être grandiose. Oh,
quand les premières médailles tomberont, ça ira mieux.
Oui, ça ira mieux.
Oui, enfin, on ne sait pas chez qui ils tomberont.
Alors, justement, la question qu'on a envie de se poser, Marc Menant, le 15 avril 1900, c'était le coup d'envoi de cette grande exposition universelle, fantastique pour la France, qui accueillait aussi les JO. Donc, quel état d'esprit était la France ? Est-ce que c'était dans cet état d'esprit de « on redoute, on ne veut pas trop » ou bien au contraire ?
C'est l'une des périodes de l'histoire extrêmement fascinante. Il ne faut pas oublier que le 19e siècle est celui de tous les bouleversements. Et là, c'est l'exposition de quoi ? De l'espoir.
Et de tous les... Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Et de tous les espoirs.
De l'espoir et de l'enthousiasme. Pourquoi ? D'ailleurs, ça s'appelle le bilan d'un siècle. Le siècle, il a vu émerger la voiture. Il a vu émerger les premiers esquisses de vol. Il a vu l'électricité poindre. Et là, à l'exposition universelle, on va avoir le palais d'électricité. Vous imaginez ? On quitte le monde où l'homme est un animal pour entrer dans un univers où on sera débarrassé de toutes les tâches, où tous les émerveillements sont possibles. Alors que l'on circule dans Paris avec les coches, eh bien, il y a les premiers moteurs qui sont là, vrombissants. On a même déjà dépassé les 100 km/h avec une voiture électrique. Donc, c'est fabuleux. Et puis, il y a aussi un état d'esprit revanchard, hein, parce qu'il y a eu cette cicatrice qui n'arrive pas à se cautériser de la guerre de 1870. Mais néanmoins, on est porté. Et ce qui est incroyable, c'est ce que l'on va réussir à réaliser en installation, c'est-à-dire que c'est un domaine invraisemblable de plus de 300 hectares, avec 43 pays qui seront en train de montrer la puissance qui est la leur. Il y aura exactement 83 047 exposants, vous vous rendez compte, dont 38 253. Et aujourd'hui encore, il y a les traces dans Paris. Le premier pont qui a été dressé pour cette exposition, c'est celui qui est le pont Alexandre III. Et le tsar, en 1896, il est venu à Paris, il a posé la première pierre. Et en 1896, en 1900, il est dressé le pont. Il y a également les petites mythes qui sont là, qui creusent partout la terre pour faire émerger quoi ? Dans le sous-sol, le métro. Le métro, bon, on aura quelques temps de retard, puisque lorsque le public est invité à l'exposition, le métro ne roule pas encore, mais le 19 juillet, enfin, on pourra mettre ses 10 centimes pour aller de Vincennes à la porte Maillot. C'est invraisemblable. Et alors, dans les progrès technologiques comme ça qui font rêver, qui montrent que l'homme sera débarrassé de certains efforts, vous avez une sorte de grand boulevard, on appelle ça d'ailleurs la rue de l'avenir. C'est un trottoir roulant. Alors vous montez sur le trottoir, vous avez les dames, c'est l'époque de l'élégance. Vous avez les dames qui sont là avec leur petit chapeau, les hommes avec leur haute forme, la cravate, et on saute sur le trottoir. C'est un double trottoir. Il y en a un qui va à 4 km/h, et si vous refaites un petit saut de puce, à côté, il y a celui qui roule à 8 km5, et hop, ça vous fait faire tout un tour dans un quartier, si vous connaissez Paris, qui part de tout le Champ de Mars, la Motte Piquet, et ça, c'est extraordinaire. On construit le Grand Palais. Aujourd'hui, le président de la République était au Grand Palais. Le Grand Palais, il est construit en 2 ans pour exposer tous les arts français, l'histoire des arts, là, proposée en face. Il y a le Petit Palais. Les gares, parce qu'il faut accueillir les spectateurs. On construit la gare d'Orsay, qui est devenue le musée d'Orsay. On construit la gare d'Austerlitz. C'est un pays totalement bouleversé. Aujourd'hui, si vous êtes du côté des Invalides, vous avez le village suisse. Pourquoi le village suisse ? Tout un chacun voit, il y a surtout des antiquaires. Bien parce que là, on avait dressé une véritable montagne. C'était la Suisse, avec des pâturages, des vaches. On allait traire les vaches. Et il y avait plus de 300 personnes qui vivaient comme les Suisses. De l'autre côté de la côte de Chaillot, vous aviez le Trocadéro. On avait dressé aussi le grand palais du Trocadéro. Et c'était les colonies françaises et internationales. Alors forcément, aujourd'hui, quand on vous rapporte ça, on se dit « sinistre personnage ». Ils essayaient de nous faire croire qu'ils apportaient la civilisation et ils enfermaient pendant des mois, ça va durer jusqu'au 12 novembre, eh bien on enfermait des autochtones qui montraient comment ils vivaient dans leur pays qui était en train de se développer grâce à qui ? Ouais, eh bien grâce à la France.
C'est moins drôle.
Mais non, mais c'est moins drôle. Il faut essayer de se mettre ça dans l'état d'esprit. Il n'y avait pas spécialement de racisme. Il n'y avait pas spécialement un esprit de « on est plus fort que les autres », même si ça, c'était un peu en filigrane. Il y avait le désir d'un monde qui s'offrait la modernité, un monde libéré de toutes les tâches.
Et là, par rapport à aujourd'hui, à
Marc. Et attends.
Parce que quand je vois. Pardon, je vous interromps. Non, mais quand je vois le pont Alexandre III, le Grand Palais, le Petit Palais, tout ça pour les JO, etc., et l'exposition universelle, je veux dire, 2024, je ne sais pas, on reste.
Ah non, mais c'est époustouflant.
Oui, il y a des travaux. Et pourtant, il y a des travaux.
Néanmoins, si vous prenez le journal L'Illustration. Non, mais si vous prenez. Parce que c'est ce que je voulais dire à un moment donné. Si vous prouvez le journal L'Illustration du 28 avril, ils vous disent carrément qu'il n'y a que des vitrines qui sont pas encore comment ouvertes et dressées. Vous avez des barrières qui mettent portes interdites, etc. Et ils disent c'est l'horreur. Mais néanmoins, quand au mois de novembre, ça se terminera, le papier enthousiaste merveilleux Paul Moron, voilà une plume qui chante. Ah, on est loin des mièvres d'aujourd'hui. La plume enchanteresse. Et puis, il y a les Jeux Olympiques, car le baron de Coubertin avait pensé qu'il y ait une fête sportive, et comme il avait recréer les Jeux Olympiques, il obtient qu'ils soient reconnus comme Jeux Olympiques, mais on n'a pas eu le temps de mettre les affiches Jeux Olympiques, et ça se déroule à Vincennes avec près de 1000 athlètes qui concourront dans 19 sports.
Personne ne parlait d'attentats pour les JO à l'époque. Non, je rigole.
Non.
C'était une autre ambiance. Hein.
C'est incroyable. C'est quand vous voyez les images...
Voir la France dans toute sa puissance, sa grandeur et tout.
Oui, et on a l'impression que rien n'est impossible.
Oui.
Il y a même une lunette pour regarder la Lune à 1 mètre. Elle fait 60 mètres de long.
On vous rappelle que Marc Menant y était.
Eh oui.
On croit toujours que vous y êtes tellement vous en parlez bien.
Le dernier point, c'est qu'on croyait que c'était le monde uni, le monde dans l'avenir, le monde de l'espoir et de l'enthousiasme. 14 ans après, malheureusement, c'est la grande boucherie. C'est 14.
Et oui.
Il y avait là un très très bel édifice représentant les Allemands, entre autres.
Un petit tour de table peut-être sur ce qui s'est passé aujourd'hui aux États-Unis, puisque c'est une première dans l'histoire américaine, un ancien président américain qui risque la prison. Alors écoutez, Donald Trump qui a été, dont son procès est ouvert aujourd'hui, procès pénal qui met en cause Donald Trump dans l'affaire de Stormy Daniels, une ancienne actrice de film X, qui aurait été payée pour obtenir son silence au sujet d'une relation extra-conjugale. Donc il est convoqué au tribunal pour cela. Écoutez, comment il dit que c'est une attaque contre l'Amérique, c'est une attaque contre un adversaire politique.
C'est une affaire qui n'aurait jamais dû être intentée. C'est une attaque contre l'Amérique, c'est pourquoi je suis très fier d'être ici. C'est une attaque contre notre pays et c'est un pays qui échoue. C'est un pays dirigé par un homme incompétent qui est très impliqué dans cette affaire. Il s'agit en fait d'une attaque contre un adversaire politique, c'est tout ce que c'est.
Je ne sais pas comment dire, c'est gênant entre guillemets, même si on peut respecter toutes les institutions, etc., à quelques mois seulement de la présidentielle, non ?
Non, on est devant une instrumentalisation politique de la justice, ce qui ne veut pas dire que Trump soit irréprochable, la question n'est pas là.
Non, bien sûr, mais le timing quand même,
je dirais que tout le système s'est mobilisé pour empêcher sa candidature, pour neutraliser sa candidature, et ce procès, je ne sais pas si c'est un procès strictement politique, ça n'a aucun sens, mais c'est un procès qui a une dimension politique, d'autant qu'il ne faut pas l'oublier, aux États-Unis, les procureurs sont souvent élus, et on veut se faire Donald Trump, et on trouve ça presque une gloire à l'idée d'être celui qui sera capable de le dégommer. Je note par ailleurs, mais ça c'est vraiment les États-Unis, Stormy Daniels d'un côté, Monica Lewinsky de l'autre dans les années 90, c'est un pays qui a avantage à se décomplexer un peu en matière d'intimité.
Oui, décomplexer, mais pas les mêmes conséquences quand même.
Non, je suis d'accord, mais c'est quand même lunaire. En dernière instance, une histoire de fesses avec une actrice porno, puis c'est au cœur de la présidentielle.
Là, c'est l'argent.
C'est quand même pas vraiment comme Bill Clinton.
Il est poursuivi pour
le... Non, je sais ce que je veux dire, c'est que c'est au cœur du récit médiatique et politique du pays.
Ah oui, politique, ouais.
Oui, après, c'est le carburant électoral de Donald Trump. Quand tu dis c'est une attaque contre
l'Amérique. Il retourne.
Depuis le départ, tout le monde disait l'année dernière qu'il serait mort politiquement à cause de c'est le premier de 4 procès au pénal qu'il attend, là, quand même. Hein. Et il ne cesse de grimper, il est toujours plus fort dans les sondages. Tous les Américains en attendent plus de lui que Joe Biden, qui a pourtant un bon bilan. Quand on le regarde, notamment sur les questions de l'économie, et ben voilà, Trump, ça le rend encore plus puissant, finalement. C'était du carburant électoral pour lui.
Mais j'aime bien parce que vous dites ça un peu comme si c'est acquis, alors que finalement c'est lui qui arrive à transformer tout ça, non ? Vous trouvez pas ?
Ah non, mais il a un vrai talent, évidemment, à retourner ça en sa faveur. Ça lui coûte aussi une fortune. Il a été condamné au civil pour une autre affaire de viol à presque 90 millions de dollars déjà. Il faut savoir que les donateurs, les gens qui donnent de l'argent aux États-Unis pour la campagne de Donald Trump, payent les procès de Donald Trump.
Moi, je trouve tout ça sinistre par rapport à l'idée d'une démocratie, même s'il y a toujours eu des faiblesses dans la démocratie américaine. Vous avez tout ce que nous avons rappelé là par rapport à Trump, mais il y a les dossiers qui concernent Biden, il y a son état de santé, et c'est l'un des pays, je dis l'un des pays parce que c'était longtemps le pays phare, le pays le plus puissant, maintenant on parle de la Chine, il n'en reste pas moins que cette démocratie qui a fait fantasmer nombre de millions de personnes, de milliards d'individus sur Terre, eh bien voilà ce qu'elle nous inflige comme spectacle aujourd'hui. Moi je trouve ça vraiment... pitoyable et dangereux pour l'idée que l'on peut avoir d'un monde qui demain permettrait à tout un chacun de croire en son avenir.
Alors c'est vrai qu'il faut que justice soit faite, mais à 7 mois, on peut se poser.
Mais cela dit, la question, elle se pose aussi en France. Hein, j'allais dire, tout est américanisé. Et en plus, là, c'est trumpisé. Donc en termes de spectacle, on est au maximum. Mais les affaires de justice, on a à la fois... Il y a des injonctions très contradictoires. On veut à la fois une justice qui puisse passer, c'est-à-dire que des gens ne soient pas au-dessus des lois, mais qu'ils soient pas en dessous, enfin, qu'ils ne soient pas en dessous des lois, mais pas au-dessus non plus. Et à chaque fois qu'il y a une affaire, c'est instrumentalisé des deux côtés, systématiquement. C'est-à-dire ceux qui sont contre la personne qui est inquiétée par la justice vont dire bah, vous voyez, ils sont pourris, etc. Et puis celui qui est attaqué va dire c'est évidemment une attaque politique.
Mais c'est ça. En tout cas, on ne peut pas ne pas penser, par exemple, à Nicolas Sarkozy ou encore à François Fillon.
En termes de campagne électorale.
Ouais. Oui, mais d'où l'expression tous pourris, c'est terrible.
C'est grave, c'est vrai pour le.
Alors, Charlotte Dornelas, juste avant votre chronique, je vais vous montrer ce 15 avril 2019. Nous sommes, regardez les images, au moment où Notre-Dame est en feu et spontanément, les gens se rassemblent dans la rue et chantent.
Mais Christine, en plus, on est à la minute près quasiment là. L'image de la chute, c'était à 19h50.
Ça me donne des frissons, attends, ça me donne des frissons. C'est vrai ce que vous dites. Disiez que c'était carrément...
Voilà, la minute près, Christine. C'était à 19h50, la chute de...
Maintenant.
Ouais. Exactement, de la flèche. Mm-hmm. Pardon ?
Ouais, pile. Ouais.
Et après, on tremblait que l'une des tours ne s'effondre pas. Et ça a été le suspense pendant des heures.
Moi, je ne suis pas catholique, mais Charlotte Dornelas, moi, j'ai des frissons lorsque je vois...
Elle est française, donc ça aide aussi.
Ouais. Non, mais lorsque je vois ces Français, ces Parisiens ou ces touristes qui se rassemblent dans les rues, qui chantent ensemble, qui sont là dans une certaine unité. Mmh. Enfin bon, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais déjà. Donc Notre-Dame s'apprête à ouvrir ses portes normalement le 8 décembre. D'abord, qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui s'est passé quand même ce soir-là ?
Un petit peu. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à l'origine, vous avez eu une enquête. Bon, l'enquête est absolument énorme, évidemment, vous doutez bien. Mais il y a d'abord des enquêteurs qui ont été projetés sur le terrain, en fait, pour étudier tous les morceaux de pierre, de bois, l'incendie, les poutres qui étaient tombées, la poussière, les morceaux de voûte, absolument tout, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Initialement, il n'y a pas eu, vous savez, assez rapidement, le procureur de l'époque avait écarté la piste criminelle en disant il n'y a pas eu de traces d'accélérateur de feu, on n'a pas trouvé de présence suspecte. Vous savez, il y avait des vidéos qui avaient circulé le soir même, on voyait des hommes, c'était pas ce soir-là. Donc, à ce moment-là, le procureur avait dit la piste accidentelle est privilégiée. Mais la piste accidentelle, dans ce genre de situation, ça veut pas dire que c'est une certitude. Ça veut dire que c'est par défaut, faute de preuve du contraire, c'est donc la piste accidentelle, assez rapidement en réalité, qui est privilégiée. Et là, il faut ouvrir une parenthèse. Si beaucoup, pendant les premiers jours, notamment les premières semaines, aujourd'hui c'est moins vrai, mais si beaucoup ont imaginé un incendie criminel à ce moment-là, c'est parce que c'était crédible. C'est-à-dire que, d'abord, la France avait déjà été attaquée, notamment sur le terrain terroriste. Ce soir-là, c'est quand même ce qui était dans les esprits. On avait un prêtre qui avait été égorgé dans son église quand même. On avait des églises qui avaient déjà été attaquées sur le terrain terroriste. Et par ailleurs, les églises sont régulièrement attaquées, et notamment régulièrement incendiées. On l'a vu dans plusieurs églises parisienne, des départs de feu volontaires cette fois-ci. Donc c'était aussi dans cette ambiance-là. Évidemment, ça n'était pas impensable. Simplement, aujourd'hui, l'enquête judiciaire, et donc depuis, elle a été ouverte pour destruction involontaire par incendie. Et les investigations ont été concentrées pendant longtemps sur les procédures, notamment les procédures suivies par les entreprises qui étaient engagées dans les chantiers de Notre-Dame. Donc il y a eu des interrogatoires des travailleurs, des responsables de la sécurité également, pour trouver d'éventuelles négligences ou violations des normes de sécurité. Et il y a au moins 4 expertises, parce que vous savez qu'il y a des juges d'instruction qui ont été nommés dans ce dossier. Il y a au moins 4 expertises qui leur ont déjà été remises sur le dossier, et ils savent aujourd'hui exactement d'où le feu est parti. C'est une poutre qui était contre un mur, voilà, ils savent exactement où le feu est parti, mais comment Ça reste aujourd'hui une question. On ne sait pas encore. Donc, on n'a pas tranché pour l'un ou pour l'autre. Le court-circuit, le mégot jeté, les étincelles, rien n'a été retenu, rien n'a été prouvé, on va dire. Et par ailleurs, dans ce dossier, il n'y a aucune mise en examen de toutes les entreprises. Aucune des entreprises qui étaient impliquées dans Notre-Dame n'a été mise en cause. L'État non plus. Et pourtant, on sait qu'il y a eu une faille, ça c'est sûr, de sécurité initiale, parce que l'homme qui était chargé de surveiller Notre-Dame ce jour-là, bon déjà il était tout seul, il était mal formé et il a cru que c'était à un endroit, il a été voir, il n'y avait pas le feu, donc il est redescendu. Donc on a perdu un temps précieux pendant les premières minutes, on va dire, de cet incendie, mais il n'y a aucune mise en examen dans le dossier, mais les investigations ne sont pas terminées. Simplement, dans les enquêteurs qui ont notamment travaillé au début, il y en a certains qui ont acquis la certitude, en tout cas ce qu'ils m'ont dit, qu'on ne saurait jamais vraiment ce qui s'était passé initialement, qu'on n'arriverait pas à trouver en réalité ce qui s'était passé au tout début. Mais ce qui est sûr, c'est que la cathédrale, normalement, rouvrira ses portes le 8 décembre prochain, fête de l'Immaculée Conception, donc fête de Notre-Dame, hein, et probablement avant qu'on sache ce qui s'est passé 5 ans et demi plus tôt.
On se souvient, Charlotte Dornelas, de dons extrêmement conséquents, mais qui paye exactement cette rénovation?
Vous savez, depuis la loi de 1905, c'est l'État qui est propriétaire de la cathédrale et qui en a la charge. Donc normalement, ça lui revient. Il se trouve que dans ce dossier, l'État ne déverse pas un centime. Vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'État est propriétaire de Notre-Dame de Paris, mais l'Église est affectataire. C'est elle qui en a l'usage. Donc c'est pour ça que le 8 décembre prochain, la cérémonie, en gros, le président de la République va remettre Notre-Dame à l'archevêque de Paris, puisque c'est lui qui a la charge de la gérer, on va dire, quotidiennement. C'est évidemment un lieu de culte, en plus d'être un lieu qui a ému évidemment les catholiques, les Français et même le monde entier ce soir-là. Et Emmanuel Macron, qui avait promis une reconstruction en 5 ans, immédiatement il avait lancé une grande contribution nationale. Alors là, cocorico, hein, à la suite de Marc, c'est la plus grande collecte au monde, en fait, qu'on ait trouvée. C'est 840 millions d'euros qui ont été récoltés. Et les chantiers, eux, n'ont coûté que... permettez-moi les guillemets, 700 millions d'euros. Donc il y a de la marge qui servira probablement, alors qui ne sera affectée qu'à Notre-Dame. Vous imaginez bien que les gens qui ont donné pour Notre-Dame, on ne va pas leur dire, bah, finalement, on va créer une piscine pour les Jeux Olympiques, ça nous arrange, c'est le bon moment. Donc ce sera affecté à Notre-Dame, probablement pour des travaux futurs, ou même pour les extérieurs, la rénovation des extérieurs. Qui a participé, on va dire, à cette générosité? Alors en tout, on a 350 000 donateurs qui ont donné pour Notre-Dame. On a les grands donateurs et les entreprises. On avait vu immédiatement le soir même Pino et Arnaud annoncer des dons extrêmement conséquents. On a plusieurs entreprises qui ont donné L'Oréal Total. Alors ça avait généré beaucoup de critiques. On avait dit oui, en fait c'est pour défiscaliser les impôts. Ils ne l'ont pas été défiscalisés en l'occurrence. D'abord, Pino y avait renoncé et Bernard Arnault avait expliqué qu'il ne pouvait pas parce qu'il y avait déjà des dons qui avaient été faits. Vous savez, vous atteignez un plafond à un certain moment. Et par ailleurs, cette défiscalisation, elle avait atteint 75%. Ils avaient changé la règle. Simplement pour les dons en deçà de 1000 euros. Donc ils n'étaient pas concernés. Donc c'était vraiment une polémique. Bon, déjà, initialement, quand bien même ça aurait été défiscalisé, c'était quand même assez original, assez français, finalement, comme polémique. Mais bon, bref, en tout cas, ces entreprises et ces grands donateurs, ils ont apporté une partie extrêmement conséquente de ces 840 millions d'euros. Oui. C'est vraiment une partie conséquente. Mais il y a également eu des contributions internationales, puisqu'on a eu des donateurs de 150 pays différents qui ont donné à Notre-Dame. Les fondations et les associations qui ont notamment organisé la collecte des dons et qui s'assurent du bon usage justement de ces dons et de la bonne affectation de ces dons. Et l'État qui supervise les travaux garantit le respect des normes dans la manière de faire les travaux, mais qui n'aura, et c'est à l'État, ça aurait été à l'État de payer, on va dire, s'il avait manqué de l'argent, mais comme il y a un surplus d'argent, il n'y a pas un centime, en l'occurrence, qui est déboursé par l'État dans la restauration de Notre-Dame aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qui reste à faire finalement, Charlotte Dornelas, désormais, avant la réouverture le 8 décembre prochain?
Alors, il reste quelque chose. Alors déjà, en gros, 2023, alors j'ai demandé à des gens qui travaillent sur la restauration, ils me disaient 2023, c'était l'année des charpentiers. Ils ont refait absolument toute la charpente qui avait brûlé. C'est la première chose qui a brûlé, on va dire, dans Notre-Dame. Alors, on a eu deux fois 1200 chaînes, parce que tout a été refait en chêne massif, comme c'était initialement. Alors ces chaînes-là, parce que c'est aussi une forme de don, ils ont été offerts par l'Office national des forêts, des municipalités, des régions et des particuliers. Donc vous avez, ils viennent de France, hein, notamment, je crois que d'ailleurs il y en avait qui venaient de chez vous, cher Mathieu. Je ne veux pas m'avancer, mais il me semble
qu'il y avait contribution.
Il y avait une proposition en tout cas qui avait été faite à l'époque. Donc voilà, c'était l'année des charpentiers. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'initialement, et c'est le général Georges Lin, vous savez, qui est mort depuis, mais qui avait la charge de ces travaux, qui avait initialement voulu absolument que des petites entreprises familiales soient travaillent dans Notre-Dame. Donc il avait fait des lots, en fait, dans les travaux, des lots qui soient accessibles. Il avait divisé les travaux en petits lots qui soient accessibles justement à des petites entreprises en France. Et on a eu sur le travail de la charpente et tous les travaux qui ont été faits pendant l'année 2023 notamment, il y avait 500 compagnons dont nous avait parlé Marc sur le chantier, 500 qui travaillaient à l'extérieur du chantier. Donc on avait quotidiennement 1000 personnes qui travaillaient sur la restauration de Notre-Dame. Et 2024, c'est l'année des couvreurs. Cette fois-ci, la charpente est terminée, c'est les couvreurs. Donc tous les toits qui vont être refaits, la flèche, vous l'avez dit, a retrouvé sa place. Enfin, sa place, la nouvelle flèche a retrouvé la place de l'ancienne, on va dire, à l'identique, évidemment, vous vous souvenez. Et les murs, les parements, toutes les sculptures à l'intérieur ont été intégralement nettoyées. Les vitraux, il n'y a pas un vitrail qui a été touché par cet incendie. Ils ont tous été nettoyés et c'est précisément parce qu'aucun vitrail n'avait été abîmé qu'il y a une contestation de ce concours qui est lancé pour que 6 vitraux de l'époque de Viollet-le-Duc soient remplacés par des vitraux contemporains. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. Mmh. Et il y a la restauration des sols également et accordée, alors ça c'est le petit plus, les 8000 tuyaux d'orgue de l'orgue de Notre-Dame. Et en fait, je dis pourquoi c'était pas fait avant, bah, tout simplement parce que pour accorder des tuyaux d'orgue, il faut un silence. Et dans un chantier, évidemment, tel qu'était celui de Notre-Dame, il n'y avait pas le silence. Et puis ensuite, il y aura tout l'installation du mobilier liturgique. Et tout sera prêt, normalement, pour le 8 décembre. Donc 5 ans après, c'est un bel exploit quand même. Hein.
Absolument.
Donc bravo Emmanuel Macron.
Ah bah bravo surtout aux gens qui ont travaillé, parce que là en l'occurrence lui...
aux compagnons, ouais.
Non mais cela dit, c'est vrai, non mais là vous avez raison, c'est que quand il avait dit 5 ans, tout le monde était
c'était pour votre réaction.
Suspicieux. Mm. Non mais bravo à tous ces métiers incroyables qu'on a redécouverts, notamment dans les... par la lumière de Notre-Dame, on va dire, on a redécouvert des métiers absolument incroyables.
Alors très rapidement, avant la dernière chronique, vous parliez tout à l'heure des causes, on ne sait pas où on en est effectivement par rapport à l'incendie de Notre-Dame. Juste comme ça pour rappel, même si on, pour l'instant la piste accidentelle est privilégiée, 2020, rappelons-nous, le 18 juillet 2020, la cathédrale de Nantes qui a été incendiée volontairement. En octobre 2023, le départ de feu a priori criminel.
Par un homme
criminel.
Qui avait tué un prêtre en plus.
Exactement.
Par
à l'église Saint-Nicolas en cité à Arras. En 2021, octobre et novembre, 4 églises incendiées volontairement par un homme à Boulogne et au Portel. Mmh. En 2023, 3 églises parisiennes visées par une tentative d'incendie, donc volontaire là aussi. Donc c'est pour ça que des gens se posent des questions, mais pour l'instant, piste accidentelle. Tout autre chose maintenant. Les européennes. C'est apparemment la campagne à suivre des présentes élections européennes, celle de Raphaël Glucksmann. Mon cher Mathieu Bocoté, on parle beaucoup dans les médias. Est-ce qu'il y a un véritable enthousiasme derrière cette campagne? Que comprendre de cette percée soudaine par plusieurs présentés avec enthousiasme? On rappelle que Jordan Bardella, caracole en tête, reconquête remonte.
Alors, je vois, c'est marqué l'espoir du PS. Moi, je dirais, je reformulerais l'espoir des médias. C'est-à-dire, il y a en ce moment, il y a un buzz autour de Raphaël Glucksmann, mais c'est pas un buzz où les médias enregistreraient une poussée populaire telle qu'on ne pourrait faire autrement que la nommer. On est dans un moment où les médias font tout pour pousser la candidature Glucksmann, comme si d'une certaine manière, ils poussaient leur philosophe préféré. Un des leurs, il poussait l'homme qu'il souhaite voir au premier rang. Donc vous regardez le récit médiatique qui est fait, il est difficile de parler de Raphaël Glucksmann, qui est par ailleurs un homme de qualité, je ne le conteste pas, en disant poussé, surprise, étonnement, il va bien. Et là, donc on nous raconte l'histoire de Glucksmann, ça serait la véritable surprise de cette campagne. Je regardais sur une autre chaîne info ce week-end, ça m'a amusé, on disait le véritable duel à suivre dans cette campagne. C'est le duel passionnant, exaltant, essentiel entre Raphaël Glucksmann et Valérie Ayé. Non, mais effectivement, en matière de suspense, c'est exceptionnel. Et on nous présentait les deux comme cela, et qui allait l'emporter dans l'aile gauche du bloc central, appelons ça comme ça. Parce que représente Raphaël Glucksmann dans tout ça? Il représente la possibilité pour une certaine gauche de renaître. Une gauche faite de cette part de la gauche qui s'était alliée avec LFI, mais qui ne veut plus en être, de cette part de la Macronie qui veut sanctionner la Macronie sans pour autant libérer LFI. Donc c'est le retour du socialisme médiatique, avec cette espèce d'originalité, un candidat jeune probablement pour une base électorale, je le dis de manière imagée, octogénaire, et par ailleurs bien installé dans les privilèges de la République. Je note une autre chose assez intéressante, c'est une gauche qui se dit atlantiste et européenne, donc qui définit son engagement d'abord par l'international plutôt que par le national. C'est intéressant. Et c'est une gauche qui, en ce moment, se dit patriote. C'est intéressant, il y a eu le débat entre Glucksmann et Bardella, et Glucksmann dit « c'est moi le vrai patriote, pas vous ». Alors, on est par ailleurs un patriotiste qui se juge en fonction de l'enthousiasme ukrainien, mais qui se montre indifférent, pour ne pas dire favorable à la submersion migratoire. Mais on a chacun notre conception du patriotisme, et elles sont toutes respectables. Est-ce qu'à travers cela, on voit une percée Glucksmann qui voudrait dire demain que c'est la grande renaissance de la gauche PS classique pour les Européens, pour la présidentielle? Je nuancerais. Les élections européennes, c'est les élections idéales pour la catégorie sociale visée par cette candidature d'enthousiasme médiatique qui est celle de Raphaël Glucksmann. Mais plus on élargit vers les bases populaires au moment de la présidentielle, plus il est possible que l'oublié du moment, hein, le croque-mitaine pour certains, Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il n'est pas mort, c'est simplement que les élections européennes ne sont pas les siennes.
Coup d'envoi pour 8 semaines avant le 9 juin. Au-delà du phénomène Glucksmann, que doit-on suivre en dernier mot?
La question qu'on se demandera sur Bardella, c'est ce qui va tout emporter. C'est-à-dire, pour l'instant, on le voit, c'est une candidature qui emporte tout. C'est la conjugaison d'un logiciel...
Pendant que vous parlez, on va montrer les sondages.
Bien sûr, il y en a plusieurs, je note. Donc, le logiciel RN avec le charisme à la Chirac des bonnes années. Donc, ça fonctionne bien pour lui, pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que Reconquête réussira à percer ou non? Un sondage récemment disait que ça montait jusqu'à 9. Je ne sais pas c'est lequel des sondages qu'on présente en ce moment. Donc, il y avait une poussée. On s'attend à ce que les Républicains réussissent à se maintenir. Ce n'est pas un détail. Donc, ils conserveront une existence au niveau européen. Dernière chose qui vaut peut-être la peine de mentionner. Valérie Ayer, donc la tête de liste de la majorité présidentielle, nous a annoncé, je pense qu'elle faisait la campagne dans le Pays de la Loire, elle a dit « je mise sur le terrain pour rattraper Jordan Bardella ». Je note que quand les politiques commencent à parler du terrain qui dit le contraire des sondages, c'est qu'ils sont eux-mêmes à ras du sol.
Merci Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. Excellente suite de programme, l'heure des Pro 2 tout de suite.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.